Les écoles et instituts de traduction et d'interprétation comme l'ETI de Genève, École de traduction et d'interprétation de Genève, l'ESIT de Paris et l'ISIT, qui est l'autre école de Paris mais qui appartient à l'Institut catholique, ont vu le jour dans les années 50 et se sont créés en dehors des départements de langue des universités. Ils ont vu le jour durant ces années parce qu'il fallait répondre aux besoins des institutions qui sont nées, comme l'ONU, la CEE et l'OTAN, et qui avaient besoin d'interprètes et de traducteurs. La finalité de ces écoles est de former des professionnels de la traduction d'une part et de l'interprétation d'autre part. Les deux disciplines qui sont réunies sous le même toit font l'objet de cursus et de diplômes distincts. L'ESIT, pour sa part, forme depuis plus de 63 ans des spécialistes de traduction et de l'interprétation de conférences et ne forme pas des traducteurs étroitement spécialisés. C'est-à-dire que nous n'allons pas former des traducteurs juridiques, des traducteurs financiers, etc. Nous allons plutôt inculquer une méthode qui va servir à nos diplômés de traduire dans n'importe quel contexte. L'enseignement est exigeant, il est adapté à la réalité du métier. Il ne vise pas à enseigner ni même à perfectionner les langues, mais à transmettre un savoir-faire. Les langues sont considérées uniquement comme un outil de travail du traducteur professionnel. Les diplômés seront capables de s'adapter à tous les contextes et de garantir la fiabilité et la qualité de l'information écrite ou d'assurer une communication précise, fidèle et fluide lors des conférences internationales ou des grands colloques scientifiques. L'articulation avec la recherche est rigoureuse car nous partons de l'idée que l'enseignement de la théorie en traduction n'est efficace que s'il est intégré dans les cours pratiques. L'acquisition des compétences professionnelles s'effectue dans le cadre d'ateliers de traduction ou d'interprétation assurés par des enseignants professionnels ayant pour langue maternelle la langue cible des étudiants. Nous avons plus d'une dizaine de langues et 40 combinaisons linguistiques. Ceci pour dire que nous ne spécialisons pas nos étudiants dans tel ou tel domaine, mais nous leur fournissons une méthode de traduction qui leur permettra de traduire n'importe quel type de texte, y compris littéraire. La formation se fonde sur la théorie interprétative développée par l'ESIT, la TIT, qu'on appelle aussi la théorie du sens, qui considère la traduction non pas comme une transposition, un exercice de transposition linguistique, mais comme un acte de communication qui porte sur le sens. Outre leurs compétences linguistiques, les traducteurs acquièrent et perfectionnent les aptitudes indispensables à l'exercice du métier. Méthode, ouverture d'esprit, faculté d'adaptation et d'assimilation, ce qui leur permet de maîtriser rapidement les connaissances indispensables dans les domaines les plus divers. L'insertion professionnelle des diplômés est rapide, que ce soit à titre indépendant ou comme salarié, en entreprise, dans une organisation internationale ou dans le secteur public. Cette insertion a parfois lieu avant la fin de la formation. Il est à noter que les diplômés de l'ESIT obtiennent des résultats très supérieurs à la moyenne à l'issue des concours sélectifs de plusieurs institutions, comme l'ONU, la Commission européenne. En 2018, plus de la moitié des reçus au concours des Nations unies étaient diplômés de l'ESIT. Je rappelle aussi que l'ESIT, c'est une école publique qui a une autonomie pédagogique au sein de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Donc, qui dit école publique dit droit d'inscription de 250 euros, contrairement à l'ISIT, qui est une école privée. Nous avons aussi un parcours recherche en Master 2, qui aboutit à un doctorat en traductologie. Un des critères pour être accepté en Master recherche, c'est d'avoir pratiqué la traduction sur le marché pendant 2 ans au moins. Parce que nous pensons qu'un praticien de la traduction saura mieux saisir qu'un novice les défis de la traduction et sera à même de réfléchir aux problèmes de l'opération traduisante. Cela nous permet aussi d'éviter les théoriciens en chambre. Cette définition du profil professionnel aide à identifier la formation nécessaire, c'est-à-dire les compétences nécessaires qui facilitent à leur tour l'identification des éléments formatifs. Ainsi, dans une formation à la traduction et à l'interprétation, la planification curriculaire implique la conception d'un référentiel de compétences simple et fonctionnel, qui va des méthodes de travail à des habitudes socio-culturelles plus diffuses. Elle induit aussi un ensemble de pratiques qui est partagé par tous. Il est essentiel, de prime abord, de voir quelles sont les aptitudes et les compétences que les étudiants devront présenter à l'entrée en master. Dans chaque cas de figure, il conviendra d'être explicite sur les objectifs de la formation dispensée et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Les prérequis, aussi bien pour l'interprétation que pour la traduction, sont d'une part de bonnes compétences linguistiques, une excellente maîtrise de la langue maternelle ou langue d'instruction qu'on appelle langue A, la maîtrise d'une langue active dite langue B et une excellente compréhension d'une langue passive dite langue C, à partir de laquelle les étudiants sont amenés à traduire ou interpréter vers leur langue A. Les compétences linguistiques continueront à se développer tout au long de la formation et s'inscrire dans une compétence culturelle qui sera développée tout au long de la formation et s'inscrira dans une formation interculturelle, dans une compétence interculturelle. Ce qui explique souvent le prérequis pour la section interprétation d'avoir vécu dans un pays de langue B ou C pendant un an. D'autre part, les compétences linguistiques devront aller de pair avec un socle de culture solide, assorti d'une curiosité intellectuelle qui permettra d'étendre et d'enrichir ses connaissances, non seulement tout au long de ses études, mais tout au long de la vie professionnelle. Il est aussi attendu de la part de l'interprète de la rapidité, une grande capacité d'adaptation, une aisance à l'oral, une capacité à prendre la parole en public. Il sera entraîné à l'écoute dite active, à savoir une écoute analytique, à l'analyse, à la synthèse de discours. Il apprendra à dégager le message véhiculé par les mots, mais parfois au-delà des mots, derrière les mots, pour le reformuler dans la langue d'arrivée. Cette mise en pratique se fera sur la base de discours de difficultés croissantes, en mettant en œuvre les différentes techniques que sont l'interprétation consécutive, la traduction à vue, l'interprétation simultanée en cabine. Un cours théorique permettra une approche réflexive sur ces pratiques. Les cours d'interprétation sont assurés par des interprètes en exercice qui transmettent leur savoir-faire et leur connaissance du terrain. Nous avons par exemple les interprètes de Macron pour quand il y a des sommets entre Macron et Merkel. Nous avons deux enseignants qui assure l'interprétation de Macron. Nous avons aussi une interprète qui assure à l'Élysée l'interprétation vers l'arabe et à partir de l'arabe. Donc nous préférons, si vous voulez, des interprètes en exercice pour pouvoir coacher les étudiants, leur apprendre non seulement le savoir-faire, mais aussi tous les conseils qui vont autour dans la profession. Pour amener les étudiants à trouver par eux-mêmes les solutions qui vont leur convenir, si vous voulez. Donc il s'agit en quelque sorte, tout comme en traduction, d'une maïeutique qui se prête peu aux grands groupes. C'est-à-dire que nos promotions en interprétation sont des promotions réduites. Pour la rentrée prochaine, nous avons par exemple pour la section interprétation sélectionné 15 étudiants sur 220 qui se sont présentés. 15. Voilà. Pour le Master 1. Parce que très peu d'étudiants réunissent toutes ces compétences, même s'ils sont très bons intellectuellement. Voyez ? Et de toute façon, c'est lié au marché. Si le marché ne peut pas prendre plus d'interprètes, on ne peut pas recruter davantage. Donc, pour résumer, nous dirons que les différences essentielles entre les deux formations, interprétation de conférences et traduction, portent sur le médium, comme vous l'avez dit, et, oral pour les interprètes, écrit pour les traducteurs. Ils sont différents aussi par les contextes d'intervention qui entraînent des profils de professionnels différents. Par exemple, il y a la rapidité, l'immédiateté, le temps réel, les déplacements, une exposition plus grande pour l'interprète et un travail plus approfondi, plus fouillé, plus détaillé du traducteur. Cela étant dit, nous partirons de notre conception de la traduction telle que nous la pratiquons à l'ESIT pour passer par la suite aux mutations en cours dans le métier et mieux éclairer ainsi la différence radicale d'approche entre la traduction humaine et la traduction machine. Alors, former à la traduction professionnelle dans l'enseignement supérieur exige des enseignants une double qualité, la compétence académique et la compétence professionnelle. Autrement dit, un enseignant qui serait coupé de la pratique risque d'être dépassé par l'évolution du métier. À l'inverse, une pratique qui ne serait pas nourrie par une distance réflexive risque de pencher fortement vers un empirisme anesthésiant. La conception de la traduction comme discipline académique et le processus de traduction qui conduit à un produit professionnel sont mutuellement conditionnés. Nous tentons ici de présenter et d'analyser une conception de la traduction, non pas en tant qu'acte de reproduction, mais en tant que production à part entière. Autrement dit, nous travaillons sur l'idée que la traduction ne relève pas seulement d'un processus d'information doublé, ce qu'elle serait si elle se contentait de transmettre le seul contenu du message source, mais qu'elle est également de la communication. Loin de se concevoir comme une opération neutre qui laisserait l'original inchangé. Nous montrons qu'à partir du moment où elle n'est plus abordée comme une fonction substitutive, mais transformatrice, c'est le point de vue épistémologique de la traduction qui change. La traduction serait ainsi libérée du principe de fidélité. Elle consiste à transformer autant qu'à transmettre. Il s'agira pour l'enseignant de défendre l'idée d'une traduction conçue comme réécriture, pour montrer la dimension créative des traductions pragmatiques. Cette traduction créationnelle se distinguerait de la traduction mimétique, parce qu'elle exige du traducteur à proposer des solutions à la fois nouvelles et appropriées. Derrière la dichotomie reproduction-production se dissimule assez fréquemment une autre dichotomie qui est fondée sur la typologie des textes. Et selon les textes, nous avons également des façons de traduire. Pour autant, il importe d'attirer l'attention de l'apprenant que la marge de manœuvre du traducteur, la marge de manœuvre dont il semble disposer, n'est pas la même selon qu'il traduit pour une institution internationale, un site web pour une entreprise ou un documentaire audiovisuel. Par exemple, la rhétorique d'un discours juridique de l'Union européenne est différente de celle d'un discours spécialisé de l'ONU. L'ONU exigera une fidélité formelle qui transparaît dans l'uniformisation terminologique et phraséologique du fait que tout écart par rapport à l'original est souvent considéré comme intentionnel et que le souci d'élégance de la forme doit s'effacer au profit de la pertinence et de l'efficacité. L'objectif suprême de l'ONU est de créer un droit unique au sein de la communauté internationale pour éviter les conflits. D'où les phénomènes d'emprunt ou d'anglicisation visibles dans les langues officielles de l'ONU. le russe, le chinois, l'arabe, l'espagnol. D'où aussi les phénomènes d'emprunt ou d'anglicisation visibles donc dans ces langues et qu'on vérifie aussi dans les textes de l'Union européenne. Où il semble qu'on plébiscite les solutions correctes mais étrangères à la langue au lieu de garder le terme national avec des acceptions différentes. On va préférer un terme qu'on va créer. Par exemple, on nous donne l'exemple de bonne foi dans les textes juridiques. En anglais, ils ont trouvé le terme good faith, alors que dans les textes de loi anglais, c'est un autre terme qui est utilisé. Fair dealing, je crois. Donc, on va jusqu'à l'alignement des paragraphes et des notes tel qu'il est fixé dans des modèles pré-structurés et multilingues utilisés pour la rédaction juridique. Et donc, les langues sont obligées de tordre l'ordre logique et les règles grammaticales pour pouvoir s'adapter à ce format, à ce modèle. Parce que toutes les versions font foi dans le droit de la communauté européenne. L'anglais lui-même, à la communauté européenne, c'est un anglais qui est décontextualisé. Il est le texte original d'où l'on part, si vous voulez, mais qui sert en même temps de texte de négociation. On va le négocier pour pouvoir fixer les autres versions linguistiques. Donc cet anglais de l'Union européenne est lui-même décontextualisé, détaché des références juridiques et culturelles des pays où il est langue officielle. La traduction contribue ainsi, de manière plus ou moins décisive, à transformer, par incorporation d'éléments divers, la langue du traduit et la langue de l'original. Le processus entier de prise de décision n'est plus lié au texte. On part d'un texte, mais ce n'est pas lié à ce texte-là, mais il dépend de considérations nombreuses qui engagent les récepteurs aussi de la traduction. Alors, le sens n'est plus vu comme un simple invariant dans le texte source, il est ancré dans une culture et il doit être interprété. En fin de compte, une traduction est toujours en devenir et ce n'est plus un objet de sacralisation. Il est demandé au traducteur d'être audacieux en matière expressive et de néologisme et de ne pas hésiter à entraver parfois les structures rigides de la langue. Le lieu du traducteur est un lieu de création sur le plan conceptuel et linguistique. Ce sont les traducteurs de l'ONU qui se réunissent pour créer les termes. Ce n'est pas des terminologues. Ils sont là, c'est vrai, ils discutent avec les experts, mais c'est eux qui créent en fin de compte les termes. Donc le traducteur permet à sa langue d'évoluer, de devenir instrument de culture au contact d'une autre langue. Jean-René Ladmiral voit en cela un aspect de la communication interculturelle qui s'inscrit dans le temps de l'histoire et dans le temps et dans le travail de médiation entre deux langues-cultures. Dans ce cas précis, l'apprenant découvre que c'est la finalité ou la fonction qui régit toute traduction, dont la réussite tient, en outre, à la cohérence du texte traduit et à la conformité de ce dernier à la situation de communication, ainsi qu'à la satisfaction des parties impliquées par la situation. Cette part de créativité est aussi le résultat de la subjectivité interprétative et scripturale du traducteur. On l'aura compris, même dans les textes pragmatiques donnés à traduire aux étudiants, où les questions stylistiques semblent secondaires, le style zéro, aseptisé, n'existe pas. Selon Christian Baliu, aux côtés du style personnel, individuel de chaque auteur, existe un autre style, tout aussi réel, moins visible, le style imposé par la culture, la société dans laquelle on vit. En effet, notre manière de penser se traduit dans la langue que nous employons, tandis que cette dernière influence notre façon de raisonner. Langue et culture sont étroitement liées, et changer de langue, c'est changer de culture. La traduction est un travail sur la civilisation, au moins autant que sur la langue. Le bon traducteur serait donc celui qui comprend la pensée des deux cultures. Traduire dans une perspective interculturelle, c'est partir de l'hypothèse que chaque forme de communication est influencée par des normes culturelles qui se manifestent à tout niveau d'un texte, au niveau de la discursivité, qui est le mode d'écriture de ces textes, au niveau de l'armature logique, par le jeu des conjonctions de coordination, un respect scrupuleux des règles d'écriture, et en particulier des conventions typographiques, de l'orthographe, des expressions consacrées et de la syntaxe. Cette approche traductive s'inscrit dans celle de l'intelligence interculturelle, dans celle d'une démarche de vigilance et de curiosité, d'une tentative de compréhension des logiques de l'autre, dont la culture, les modes de pensée, les façons de fonctionner sont différents des nôtres. Elle s'inscrit dans une approche holistique du savoir traduire, déclinée en compétences. Apprendre à comprendre, apprendre à apprendre, apprendre à communiquer, apprendre à évaluer, en fin de compte, le texte. À ce socle de compétences est venu se rajouter, depuis un certain temps, la compétence technologique, qui comprend également une connaissance de base des technologies de traduction automatique et la capacité de mettre en œuvre la traduction automatique selon les besoins, l'exploitation efficace des moteurs de recherche, des outils basés sur les corpus, des outils d'analyse textuelle, des outils d'aide à la traduction, la maîtrise des bases de la traduction automatique et son incidence sur le processus de traduction. Cette compétence est complétée par ce que l'anglais appelle les soft skills et qui sont des compétences personnelles et interpersonnelles qui existent depuis toujours dans les écoles de traduction et qui recouvrent toutes les aptitudes générales qui augmentent l'adaptabilité et l'employabilité des diplômés. Savoir planifier et gérer son temps, savoir gérer son stress, savoir gérer la charge de travail, respecter les délais, les consignes, les cahiers de charges, travailler en équipe si nécessaire, dans des environnements virtuels, multiculturels, multilingues, en utilisant les technologies de communication courantes. S'auto-évaluer, mettre à jour et développer ses compétences et ses aptitudes de manière continue. Enfin, la prestation de service est l'ultime compétence qui englobe toutes les aptitudes liées à la mise en œuvre de la traduction. L'appréhension des besoins du client, la négociation du contrat, la gestion de projet et l'assurance qualité. Les évolutions technologiques en matière de traduction automatique dite neuronale ne sont pas étrangères à l'impératif d'innovation permanente en matière de formation. Depuis 2017, le segment du marché de la traduction qui connaît la plus forte croissance est celui de la post-édition de traduction automatique, c'est-à-dire que les traducteurs révisent la traduction machine, ce qu'on appelle la post-édition. Une telle évolution signifierait une transformation des processus et métiers de la traduction. Il faut se demander à quel point ces nouveaux outils pourraient nous être utiles. Par exemple, lorsque les documents se répètent d'une fois à l'autre, lorsque le domaine est spécialisé, lorsque le style est particulier au domaine, et surtout lorsque les délais rétrécissent, ne voudrait-on pas pouvoir générer en quelques minutes une traduction que j'appellerais révisable et laisser tout le temps au réviseur pour la peaufiner? Lorsqu'on pense efficacité et rentabilité, cette solution serait idéale dans certains domaines et certaines circonstances, bien entendu. Maintenant, il faut se demander quand il faut aborder les les outils de traduction automatique. Certains enseignants d'université, notamment dans les départements de LEA, langue étrangère appliquée, préconisent que les outils de traduction automatique soient abordés dès le début de la formation. Et non pas une fois les compétences en traduction acquises. Ce n'est pas la philosophie de notre école. Nous pensons qu'il faut d'abord maîtriser l'exercice de traduction pour prendre du recul et adopter une approche raisonnée qui prend en compte les enjeux qui nous semblent particulièrement importants. Par exemple, quelles sont les différences d'approche entre la traduction humaine et la traduction machine? Quelles sont les limites des outils de traduction? À l'inverse, quelles sont les immenses potentialités de ces outils? Quels sont les risques? Quand avoir recours à ces outils? Et quelle rentabilité on peut en tirer? Pour répondre à ces questions, il importe de se remémorer que la logique de la traduction humaine est holistique. Elle considère le texte comme un tout, alors que la machine, que la traduction automatique et la traduction assistée par ordinateur fonctionnent par découpage. Et pour la première fois, par analyse, pour la première, c'est-à-dire la traduction automatique, par analyse et recomposition de ce qu'elle a découpé. Ce serait la même dichotomie, si vous voulez, qui existe entre le code et le discours. La machine, c'est le code, et nous, nous travaillons sur des discours. Ces différences d'approche structurelle montrent bien que la traduction humaine est plus soucieuse du contexte et qu'elle s'affranchit vis-à-vis des bornages entre les phrases. La traduction d'un texte pragmatique est une tâche asymétrique, à l'inverse de celui de la machine qui est un travail systématique. Cette liberté va se manifester au niveau de la recomposition interne des unités de sens dans une même phrase, des ajouts et suppressions de la redondance pour un traducteur, de l'implicite, de la variabilité de l'expression et des signes de ponctuation. La machine, par exemple, peine à distinguer les ambiguïtés lexicales, par exemple la polysémie des mots, peine aussi au niveau de la complexité syntaxique quand il y a des articles possessifs neutres, par exemple, dans une langue. La singularité idiomatique du texte, elle peine aussi. Tous ces phénomènes échappent à une correspondance qui serait formelle et formalisable. Les concepts de traducteur augmenté et de traduction augmentée qui ont été lancés en 2017 se répandent de plus en plus. Ils ont ceci de rassurant qu'ils nous éloignent de celui de traduction machine assistée par l'humain. Sur le modèle de la réalité augmentée, la traduction augmentée est censée enrichir la vie professionnelle du traducteur parce qu'elle lui procure un meilleur accès à l'information pertinente. Force est de constater que les outils de traduction assistés par ordinateur en tant que programme informatique, propose désormais des plateformes virtuelles qui offrent une aide plus efficace à la traduction de tout type de contenu. Grâce à des fonctions telles que l'automatisation de la création des projets de traduction, la recherche de documents de référence, l'utilisation de mémoires de traduction, la réutilisation d'un texte précédemment traduit, la recherche terminologique, et la fourniture d'une traduction. Donc, un outil de TAO est capable de fournir au traducteur tout cela. Au niveau des institutions internationales telles que l'ONU et l'UE, les outils de TAO permettent aux linguistes d'accéder aux ressources linguistiques et phraséologiques pertinentes qui sont extraites d'une mémoire de traduction centrale. Quant à la traduction automatique neuronale, qui marque un changement de paradigme, elle utilise un réseau neuronal et des techniques d'apprentissage profond pour prédire les schémas d'utilisation des langues et assurer une meilleure fluidité et fournir un travail de meilleure qualité. Elle s'appuie sur des données de haute qualité, c'est-à-dire sur des textes traduits par des traducteurs humains. Donc sur des textes fiables, des corpus fiables qui proviennent de mémoires de traduction. Et plus le volume, plus le corpus est volumineux, plus on obtient de bons résultats. À titre d'exemple, le service de traduction automatique de l'UE, qui s'appelle e-translation, qui a suivi cette voie et qui est passé à la traduction automatique neuronale, il s'appuie sur des vastes mémoires de traduction qui contiennent plus d'un milliard de phrases produites par les linguistes professionnels durant au cours des dernières décennies. Donc un milliard de phrases, imaginez. En tant que membre de l'EMT, c'est-à-dire le réseau European Masters in Translation, Master européen de traduction, les écoles de traduction ont le droit d'utiliser cette base de données de la Commission européenne. Dans le domaine de l'interprétation de conférences, il n'y a pas les technologies linguistiques n'ont pas entraîné un changement de paradigme fondamental, comme pour la traduction. Par contre, ils ont amélioré la préparation de l'interprète, des interprètes à une réunion, en leur fournissant des outils utiles pour leur travail. Par exemple, on arrive à identifier les documents les plus pertinents pour un travail, pour un interprète au cours d'une réunion donnée. On peut leur extraire automatiquement la terminologie du discours qu'ils vont interpréter. On peut leur proposer un large éventail d'informations. Vous voyez, ça a facilité le travail des interprètes. Alors, ces technologies, faut-il en avoir peur? Ils ont certes amélioré la productivité, mais ils n'ont aucunement atténué la demande en contenu traduit, localisé et adapté qui n'a jamais été aussi forte. L'intelligence artificielle est certes un vecteur de transformation, mais elle ne signalera pas la disparition des traducteurs et interprètes. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut prendre conscience que la langue et le message et l'interprétation que l'on peut en faire sont imparfaits et sont imprévisibles, et qu'ils exigeront toujours, dans une certaine mesure, l'intervention humaine, même à l'ère de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies prédictives. Les traducteurs professionnels ont appris à connaître et à utiliser, au fil des 15 dernières années, beaucoup d'outils spécialisés, dont certains sont aujourd'hui basés sur l'intelligence artificielle. Nous croyons qu'il n'est plus temps de débattre de l'utilité ou non de ces outils pour le travail humain. Il est trop tard pour refuser l'apport des machines. Et pour autant, il n'est pas question de céder notre place. Comment repenser concrètement l'équilibre entre l'humain et la machine dans le processus de traduction? C'est là que la compétence dite personnelle et interpersonnelle intervient. L'enseignant conseille aux diplômés de se démarquer et de promouvoir fièrement leur valeur ajoutée, notamment par le rôle conseil. C'est le devoir de chacun d'expliquer à ses clients son rôle de conseiller linguistique. Il faut aller plus loin que la simple traduction des mots, se permettre par exemple d'intervenir sur le texte original lorsqu'on pense qu'il y a une erreur ou une façon de dire les choses plus adaptée au public cible. En ce sens, la traduction pourra se révéler plus fiable que l'original. Précisément parce qu'elle n'est pas une simple copie. Traduire, c'est aussi rectifier. Quand le client comprend bien notre rôle, il cesse de faire ses traductions à bas prix. Il conseille également de se spécialiser dans des domaines de pointe ou dans des types de traductions qui ont une influence sur le marketing de l'entreprise cliente ou sur son chiffre d'affaires. Le client ne voudra pas d'un rapport annuel mal fait ou d'une monographie pharmaceutique erronée ou mal traduite. Cela étant dit, nous sommes d'accord avec Rudy Locke pour dire qu'il n'est pas obligatoire de comprendre le fonctionnement des moteurs neuronaux dans les moindres détails. Il est crucial d'avoir conscience que la performance des outils de traduction automatique est en lien avec la qualité des données rassemblées en corpus. Les étudiants pourront ainsi déterminer si l'utilisation de ces outils est pertinente, en évitant de tomber dans le piège de l'illusion que créent parfois ces outils. On pense que, par exemple, le moteur d'apprentissage profond qui s'appelle DeepL, que les étudiants utilisent, fournit des traductions cohérentes, mais on s'aperçoit qu'elles ne sont pas fiables. Alors, vous allez me demander, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement? Comment on a continué l'activité? Et comment on a déterminé l'examen? Parce qu'il y a des outils. Les étudiants peuvent très bien tricher, n'est-ce pas? Alors, la consigne qui a été donnée aux enseignants, c'est de choisir des textes qui demandent une grande part de déverbalisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déverbalisation dans la théorie interprétative de l'ESIT, de l'école? Quand on est en présence d'une classe, on ne leur dit pas « traduisez ». On leur dit « qu'avez-vous compris ?» À partir du moment où vous dites à l'étudiant « qu'as-tu compris ?», il va se détacher du texte, il va oublier les mots du texte, puisqu'il doit me répondre « qu'est-ce qu'il a compris ?», et il va donc déverbaliser, c'est-à-dire qu'il va reverbaliser cela dans sa langue d'arrivée. Et il va se rendre compte qu'il va utiliser des expressions idiomatiques propres à sa langue. Il va se détacher, de l'effet. Par exemple, l'effet induit, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple de texte. Les effets de rhétorique ne se disent pas de la même façon en anglais, en français, en arabe, en chinois, etc. Donc, il va oublier le texte, les mots, et il va essayer de reverbaliser ça idiomatiquement dans sa langue d'arrivée. Quand on dit à l'étudiant « attention à la traduction de DeepL », on l'incite à aller regarder ce qu'on appelle des corpus parallèles et des corpus comparables. C'est-à-dire, les corpus comparables, ce serait sur un même thème, si je prends par exemple les risques environnementaux, dont tu vas parler bientôt, si je donne une traduction sur les risques environnementaux, moi je préfère que mon étudiant aille chercher un corpus sur les risques environnementaux, s'il va traduire vers l'anglais, directement en anglais, pour voir comment les termes sont utilisés, la phraséologie utilisée, etc., etc., qu'un texte qui serait traduit par DeepL, hein, qui serait un face-à-face comme ça. Comme ça, il pourra comparer très bien le résultat de la machine avec le résultat d'un corpus qui aurait été écrit par des natifs sur un thème bien précis. Vous voyez ? Donc, il faut faire gaffe entre la fluidité de la machine, parfois, avec les apprentissages profonds, et la fidélité au sens. Donc, la foi absolue en l'outil reste problématique et peut empêcher une prise de décision véritable et déresponsabiliser l'étudiant, puisqu'il va utiliser... Et ça peut conduire aussi à des malentendus. Donc, nous pensons qu'une fois les compétences de traduction acquises, les apprenants pourront apprendre à post-éditer correctement un texte, analyser ce qu'on voit, déterminer ce qui doit être vérifié, en prenant conscience de leur plus-value en tant que traducteur humain. Ils sauront donc que la question des données utilisées par les moteurs de traduction automatique sont très importantes pour la qualité des traductions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est surtout la pertinence, comme pour les mémoires de traduction. Si je rappelle l'histoire de la DGT, par exemple, cette e-translation, est valable pour les textes institutionnels, mais ne serait pas valable pour un autre type de texte. Vous voyez, l'instrument qu'utilise la Commission européenne est valable pour des textes institutionnels, mais n'est pas valable pour d'autres types de textes. Par ailleurs, ce qu'on remarque, comme en post-édition, il faut aller très vite, parce que le traducteur est obligé de réviser le produit machine et on ne lui donne pas beaucoup de temps, on lui donne 8000 mots parfois en 2 jours. On demande au traducteur de ne pas tout réviser. Donc la langue, c'est une langue standardisée. On comprend ce que le texte original a dit, mais on vous demande surtout de ne pas trop réviser. Voilà encore une différence entre une traduction machine, post-éditée par un traducteur, et puis une traduction humaine. La qualité n'est pas la même, évidemment. D'accord ? Comme il faut aller très vite, donc l'essentiel, c'est un texte acceptable, qui dise ce que l'original a dit, mais sans fioriture. Alors que la valeur ajoutée du traducteur serait donc de trouver des reformulations idiomatiques, d'effectuer ses propres choix et d'exercer ce que j'appellerais donc sa part de créativité. Pourquoi ? Parce que l'inventivité, comme je dis là, c'est le propre de la traduction pragmatique. Il y a toujours des créations de formes nouvelles, des formes inattendues. Il y a une part d'incertitude aussi dans la compréhension d'un texte. Et les textes se prêtent davantage à la déverbalisation. En précisant que la théorie interprétative de l'édite donc ne se focalise pas uniquement sur le sens, mais aussi sur la forme, c'est-à-dire que comment on va restituer aussi dans une forme correcte. C'est Fortunato Israël qui a développé la théorie en l'appliquant au texte littéraire. Et donc, on insiste aussi, évidemment, sur la forme, pas seulement sur le sens. Voilà. Merci beaucoup.